prendre le temps, en marchant à son rythme, de se retrouver soi-même, et peut-être de rencontrer là ce qui peut redonner du souffle à l'existence. Oui. Et si on dit les choses comme ça, rendre souffle à l'existence, retrouver du souffle, tout le monde comprend qu'il n'est pas seulement question de remise en forme physiologique, de retrouver d'une aptitude à la respiration. Hein. Si on parle de reprendre le souffle, tout le monde comprend qu'il est question de spiritualité là-dedans. Hein, qu'on entend en écho, on entend la présence du Saint-Esprit, reprendre le souffle. Et ça nous ramène à la question initiale de savoir qu'est-ce que ça peut bien signifier une spiritualité de la marche. Voilà. Donc je reviens à cette question. Et donc je pose maintenant la question de façon plus concrète, si vous voulez. Qu'est-ce qui, dans la marche, très concrètement, a cette capacité de redonner du souffle à une vie qui s'essouffle? Et là, je fais une proposition qui peut bien sûr se discuter, se contester. Il faut garder raison critique. Eh bien, je pense qu'accorder du poids et du prix à la marche dans sa vie, ça peut ouvrir et développer en soi tout par une spirituelle pour la vie que sont, j'en ai numéro 3, premièrement, une recherche de la simplicité. Je pense que c'est très important pour la vie spirituelle, le désir de la simplicité, premièrement. Deuxièmement, j'en ai déjà parlé, je vais développer un petit peu, un sens de la finitude, d'accepter notre finitude, d'assumer notre finitude. Et troisièmement, je dirais d'un art de la mobilité dans l'existence, être mobile dans l'existence. C'est très important pour l'esprit. Alors premièrement, la simplicité. Je pense que dans la vie courante, on s'identifie, c'est tout à fait social, je dirais, comme attitude, on s'identifie à ses fonctions, à ses titres. On tient au savoir qu'on possède, aux compétences qu'on a, qui sont requises, bien sûr, pour le travail en commun. Et quant aux loisirs, les loisirs, ils peuvent aussi demander des moyens importants. Vous avez des types de loisirs qui demandent des moyens importants, aussi bien financièrement que des compétences très pointues. Si vous voulez faire de la voile, il faut avoir des moyens et des compétences. Oui. Du parapente aussi, on pourrait faire toute une liste. Bon. Mais quand on marche, au contraire, il faut très peu de moyens. Il faut une paire de chaussures, il faut un petit sac à dos, une gourde, et puis voilà, et un bâton éventuellement, et puis on y va. Et on revient à une activité primitive de l'homme, qui est le mode de locomotion de toujours, c'était celui déjà d'Homo sapiens et de Néandertal. Et on retrouve le néandertalien en nous quand on marche. La marche peut nous retremper ainsi dans ce qui nous fait simplement humains, l'essentiel. Je pense ici à la manière dont Arthur Rimbaud se présente dans une lettre, il dit de lui « Je suis un piéton, rien de plus ». Vous voyez, c'est un désir de poète, de grand poète, de n'être que piéton, rien de plus. Se définir par le minimal de la marche, rien de plus, parce que peut-être tout est là, l'essentiel. Je trouve qu'il y a dans cette pensée du jeune poète, donc ce qu'il dit, c'est sa décision, enfin c'est une décision, hein, de n'être que piéton, il y a un désir très évangélique de simplicité. Et moi, ça peut penser à ce magnifique passage du chapitre 6 de l'évangile de Matthieu, observez, où Jésus dit, observez les lys des champs, comme ils poussent, ils ne peinent ni ne filent. Or je vous dis que Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. C'est peut-être de trouver quelque chose de son être créé à l'image de Dieu. Et de ce n'être que piéton de Rimbaud, on peut rapprocher saint Augustin qui a dit ceci. Il dit, saint Augustin, « Tous nous sommes des pèlerins. Celui-là est chrétien qui, jusque dans sa maison et dans sa patrie, se reconnaît n'être qu'un pèlerin. » Vous voyez, ici Augustin définit la foi de manière simplement humaine. mais radicalement humaine. Et ça, c'est très biblique. Je disais tout à l'heure, le biblique, c'est le radical humain. Saint Augustin ne dit pas « tous les chrétiens sont pèlerins ». Non, il dit « tout homme est pèlerin ». Tout homme est pèlerin. Et être chrétien, c'est seulement assumer cette condition. Mais c'est beaucoup. C'est beaucoup d'assumer cette condition. Et le révolté Rimbaud, selon ce critère augustinien, il est sans doute plus proche du Christ que peut-être lui ne le pense. Il y a aussi une conséquence de l'être simple, c'est qu'à n'être que piéton et rien de plus, on peut rencontrer l'autre. On peut rencontrer l'autre, qui lui aussi n'est que piéton. Je pense que la marche, en nous faisant sortir de nos tours d'ivoire sociales, de nos forteresses identitaires, elle peut nous mettre à hauteur de l'autre. Et c'est une expérience que tout marcheur a fait, d'y vivre un mode beaucoup plus simple, facilité d'être en relation avec l'autre, que ce soit ceux avec qui on chemine. On sait très bien qu'on se parle plus facilement en marchant ensemble qu'en face à face. Chose de difficile dans le face à face. Ou bien aussi qu'on peut, il y a tous ceux qu'on croise en chemin, on a tous des souvenirs de conversations en chemin, d'avoir rencontré très simplement. Deuxièmement, j'en ai déjà parlé, mais j'aurais développé cette dimension-là, la finitude, la mortalité. Venant de la simplicité, pour en arriver à la finitude, je pense à une expression de ce grand philosophe de l'humain tout simple qu'est Montaigne. Un grand philosophe, oui, de l'humain vraiment très, très simple. Montaigne qui disait « Quoi qu'on nous prêche, quoi que nous apprenons, il faudra toujours se souvenir que c'est l'homme qui donne et l'homme qui reçoit. C'est une mortelle main qui nous le présente, c'est une mortelle main qui l'accepte. » Vous voyez, de la dissymétrie sociale de celui qui enseigne et de celui qui est enseigné, il y a la communauté de l'humain. Et comment il définit cette communauté de l'humain? En reprenant un titre très ancien de l'homme, qui est un titre qu'on trouve déjà chez les Grecs, qui est « l'homme, c'est le mortel ». Hein, les Grecs disaient « l'homme, c'est pnetos », du nom de Thanatos, la mort, pnetos, le mortel. L'être mortel, la finitude. Je pense que la marche est une pratique où il est possible de refaire alliance avec la finitude. Cette finitude dont notre Occident a horreur, parce qu'il a la haine du corps, je veux dire, la haine du corps réel. Le seul corps que nous, Occidentaux, parce que nous sommes ici tous Occidentaux, que nous supportions, ben, c'est le corps idéalisé, c'est le corps bodybuildé, photoshopé, chirurgiqué, etc. Retouché, mais ce n'est pas le corps réel. C'est le corps des magazines, voilà, c'est celui-là que nous aimons. Et je dirais que la marche peut renouer un lien positif de vie et de pensée avec la finitude. Pas de manière abstraite, mais à travers l'expérience du corps. À découvrir que ce corps de finitude, qui se fatigue, qui est vulnérable, qui vieillit, prélude de sa mort à venir, c'est pourtant le lieu où la vie, dans toute sa richesse, nous est donnée. Dans toute sa richesse sensible. Et dans la marche, nous savons que les sens sont avivés dans la marche. En rien de la nature paraît splendide. Un aliment de peu prend un goût, plus de goût qu'un bon plat quand on marche. Un peu de pain, un peu de saucisson, c'est bien meilleur que ce qu'on peut manger chez Bocuse. Et ce paradoxe de la finitude, il trouve un très beau symbole dans une sculpture très célèbre d'Alberto Giacometti qui est « L'homme qui marche ». Je pense que vous avez tous dans l'œil cette sculpture, cet homme, comme disait Paul Valéry, immobile à grands pas. Immobile à grands pas. Et son saisissant contraste, à la fois de force, de résolution, qui symbolise toute la vie de l'esprit dans ce qu'elle a de plus excellent, et puis en même temps de fragilité, de vulnérabilité. Hein, c'est un corps qui disparaît presque. Voilà, c'est paradoxe. Une figure conjointement épanouissante. De la vie de Giacometti, que lui-même, il éprouvait un sentiment de gratitude profonde à un accident de la route qui l'avait rendu boiteux, au bonheur de boiter. Alors pourquoi le bonheur de boiter? C'est comme si une épreuve accentuée de sa finitude à Giacometti, ça le mettait en lien avec ce qui lui donne la joie de vivre. Et c'est quoi qui lui donne la joie de vivre? Eh bien, c'est la source de son art. Hein, pour ce poète, ce créateur de forme qu'est Giacometti. C'est un témoignage, vous voyez. C'est lui qui le dit. Il faut essayer de recevoir et de comprendre. Ce n'est pas une apologie du handicap, si vous voulez. Hein, mais c'est voilà. Pourquoi est-ce que Giacometti redit tout son bonheur de boiter, vous voyez. Comme si ça le mettait beaucoup plus essentiellement dans sa propre existence, de toute façon. La mobilité, ben c'est peut-être ce qui lui donnait de la mobilité, paradoxalement, dans son existence. Alors, troisièmement, la mobilité. Donc, je posais la question, qu'est-ce qui peut rendre du souffle à une existence qui s'essouffle? Ça peut se traduire aussi en termes de mobilité, ça. Hein, qu'est-ce qui peut donner souffle à une existence qui s'essouffle? En termes de mobilité, ça donne ceci. Qu'est-ce qui peut rendre de la mobilité à une vie qui fait du surplace? Quel sentiment de stagner, voire de s'enliser? Et là encore, je pense qu'on peut se mettre, oui, c'est une méthode, je dirais, hein, une méthode d'anthropologie philosophique, on peut se mettre à l'école de la marge, de son expérience. Eh bien, moi, ça me fait penser... c'est cette lourdeur de l'existence qui s'enlise à ce qu'on peut éprouver en chemin lorsque parfois on a des pieds de plomb. Mais qu'est-ce que c'est qu'avoir des pieds de plomb? Et alors même qu'on n'est pas spécialement fatigué du point de vue physiologique, que le sac qu'on porte n'a rien de particulièrement lourd, mais c'est que le sac qu'on porte dans la vie, lui, hein, le sac qu'on porte dans la vie, lui, il est très lourd quand on a des pieds de plomb. D'autant plus que la marche a pour effet non seulement d'aviver la sensibilité, je le disais à l'instant, mais d'aviver les souvenirs. Quand on marche, il y a les souvenirs qui reviennent très très fort. Et tout ce qui pèse dans la mémoire, ça revient très, très vite et très fort dans l'expérience de la marche. Et particulièrement, ce qui suscite en nous de la colère, de la volonté d'en découdre, de se venger, pour le dire d'un mot, du ressentiment. Le ressentiment, tous ces sentiments négatifs. Bien, ma proposition ici, c'est que l'intensification du ressentiment a la forge du corps qui s'active dans la marche. Vous voyez, il y a quelque chose, une activation de tout l'humain, mais de tout l'esprit dans la marche. La forge du corps qui s'active dans la marche. Eh bien ça devrait nous mettre au pied du mur de cet acte radical de l'humain, si radical qu'il y a plus que nous en lui. Vous voyez, il y a un point de radicalité en l'homme où il y a plus que l'homme en lui. C'est ce que disait Blaise Pascal, hein, l'homme passe infiniment l'homme. Vous voyez, il y a quelque chose en l'homme qui passe infiniment l'homme. Cet acte du divin, du Saint-Esprit, lorsqu'il s'engage, et qui tient à cette capacité non pas d'oublier, mais de laisser tomber tout ce négatif du ressentiment. Laisser tomber le ressentiment. Et pourquoi la marche pourrait nous décider, disons comme ça, à laisser tomber le ressentiment? Ben c'est que dans la marche, on veut aller de l'avant. Bon, quand on se met en route, clairement ou confusément, on est mu par ce désir d'aller de l'avant sur le parcours choisi, et je dirais surtout aller de l'avant dans notre parcours d'existence, dont nos parcours pédestres peuvent se faire le symbole, si nous le désirons. Hein, nous ne sommes pas des machines. Voilà. Rien n'est automatique dans tout cela. Il faut le désirer, il faut le penser. Eh bien, vous voyez, dans la marche, on veut aller de l'avant, alors que le ressentiment, lui, il nous ancre dans le passé. Le ressentiment, il nous ancre dans le passé, il nous fait tourner en rond, à ressasser sans cesse les vieilles inimitiés, les vieilles blessures, à rouvrir les vieilles plaies, à empêcher la guérison des blessures d'autrefois. Vous voyez, laisser tomber le ressentiment, et je le dis ainsi, laisser tomber, à la manière concrète dont la langue grecque des évangiles parle du pardon. Hein, le sens concret du pardon, quand à deux, par laisser tomber. Par exemple, quand la Samaritaine laisse là sa cruche pour courir à la ville, sa cruche qui est un peu l'objet témoin de sa fatigue de vivre et de sa vie qui tourne en rond, etc. Bon, eh bien, c'est le même verbe aphiemi qu'on traduit par pardonner. Laisser tomber, c'est pardonner. Pardonner, c'est laisser tomber les dettes morales, ou encore, comme on traduit dans les évangiles, en français, remettre les dettes. Oui, c'est dans un sens aussi très concret, la remise des dettes. Parce que pardon, c'est, pour nous, c'est un mot qui a une connotation plus abstraite, alors que dans la langue des évangiles, c'est très concret. Laisser tomber, laisser aller, remettre. Effacer, on pourrait dire, les dettes aussi, oui, de façon très concrète. Et ce lien entre pardon et mobilité, pardon et marche, eh bien, il nous est indiqué dans la version la plus brève du Notre Père, qui est, vous avez, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais qui a une version très brève du Notre Père, qui est très précieuse, parce que c'est en quelque sorte la prière du Seigneur réduite à son essentiel. C'est la version de saint Marc. Hein, on connaît celle de saint Matthieu, ben c'est celle que nous disons dans la liturgie. Celle de Luc, on est assez proche. Mais celle de saint Marc est tout à fait réduite. Et c'est quoi le Notre Père selon saint Marc? Et quand vous êtes debout priant, remettez. Si vous avez quelque chose contre quelqu'un, afin qu'aussi votre Père qui est dans les cieux vous remette vos manquements. Vous voyez, j'attire votre attention sur ça qui est considérable, c'est qu'ici, notre Père, ce n'est pas des mots. Ce n'est pas ce que nous appelons une prière. Ce n'est pas des mots, c'est une décision. Quand vous êtes debout, priant, remettez. Vous n'avez pas, un mot là. Et c'est un appel à la décision, remettez. C'est la décision du laisser tomber, celle de la remise des dettes. Mais pourquoi est-ce qu'on nous dit, quand vous êtes debout, pourquoi est-ce que c'est une prière qui se fait debout? Parce que dans la pensée biblique, si on est debout, ben c'est qu'on est prêt à partir, à prendre le chemin. On est prêt à la marche. La décision du pardon, elle libère non seulement celui à qui on remet ses dettes, mais elle libère aussi d'abord celui qui remet. Très important. Parce qu'on pardonne d'abord pour soi, pour se libérer de cet enfermement dans le passé qui est le ressentiment. Elle libère celui qui remet, tout en le libérant aussi, il y a cette dimension-là, de ses propres dettes. Parce que lui aussi, il a des dettes lui aussi, il n'est pas sans péché. Il n'y a pas que les autres. Nous sommes en dette vis-à-vis d'autres. Et vis-à-vis de Dieu. Et là, je crois que c'est très important de préciser, dans toutes les versions du Notre Père, que le « remettez afin que votre Père vous remette », ce n'est pas du donnant-donnant. Ce n'est pas de la transaction du donnant-donnant. « Tu pardonnes, Dieu te pardonne ». Ce n'est pas du tout cette logique-là. C'est que ce pardon qui libère l'autre, il laisse agir en nous une vie qui vient de Dieu et qui nous libère, nous, de nos propres dettes. La vie divine généreuse du pardon ne nous rejoint, nous, que là où nous la laissons aller vers l'autre. Vous voyez, c'est comme un courant qu'on ne peut arrêter sans l'abolir. On ne peut pas être pingre, je dis plus simplement, on ne peut pas être pingre avec la générosité de Dieu. Voilà. Parce que ça, c'est du détournement des dons spirituels. Et si on détourne un don spirituel, on le détruit en tant que don. Vous avez plein de passages des évangiles qui expliquent ça. Soyez miséricordieux comme votre Père du ciel est miséricordieux. Oui. Mais c'est un enjeu de vie pour nous, ça. Et je termine. Vous voyez que se laisser traverser ainsi par la vie du pardon, ben ça donne du zèle. Ça donne du feu sacré dans l'existence. Ça donne de la mobilité spirituelle. Voilà, quelques pensées pour la marche et pour essayer de faire de nos loisirs pédestres, pas une activité sérieuse, mais une activité, des espaces, disons, de respiration spirituelle. Voilà. Et puis des pensées, il y en a quelques autres, là je fais un peu de pub, pour la boutique des sœurs, parce qu'elles ont approvisionné beaucoup de livres, et je ne voudrais pas qu'elles fassent faillite.